Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal José Moussaou Pondé. Le Premier ministre a déposé ce vendredi à l'Assemblée nationale le projet de la loi de finances pour l'exercice 2020, évalué à 10 milliards de dollars. Les innovations contenues dans ce projet de budget sera exposées au cours de l'Assemblée plénière. Poursuite des offensives des FARDC contre les forces négatives dans l'est du pays. Plusieurs positions des ADF sont déjà récupérées par l'armée une semaine après le lancement de ces opérations. Kasereka Mahinda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma, est notre invité. Il nous parlera de l'activité des volcans Nirangongo et Nyamulagira, ainsi que du tremblement de terre ressenti le 30 octobre dernier à Bukavu et à Goma. Bonsoir à tous. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé ce vendredi à l'Assemblée nationale le projet de loi de finances de l'exercice 2020 évalué à 10 milliards de dollars. Ce budget tient compte de toutes les priorités contenues dans le programme du gouvernement présenté et défendu par le Premier ministre en septembre dernier lors de son investiture. Ce projet du budget 2020 comporte plusieurs innovations dont le contenu sera exposé au cours de l'Assemblée plénière, a expliqué le Premier ministre au sortir de l'audience lui accordé par Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Sylvestre Ilunga Ilunkamba est au micro de Michel Kifindangoy.
La seule chose que je peux vous dire à ce stade, je suis venu déposer auprès du bureau de l'Assemblée nationale le projet de budget pour l'exercice 2020. Les innovations ou tout ce que vous voulez, je les dirai quand je ferai mon exposé devant l'Assemblée. C'est un budget qui reprend toutes les préoccupations qui ont été exprimées dans le programme du gouvernement que j'ai présenté, qui a été validé par l'Assemblée nationale. Toutes les préoccupations se retrouvent dans le budget. Il ne faut pas être pressé, je reviendrai ici pour pouvoir expliquer en détail les contenus du budget. La primauté, c'est l'Assemblée nationale. Patientez. Le budget a été déposé, je reviendrai ici et vous aurez tous les détails de ce budget.
Fin hier, jeudi, de la mission de consultation et d'information de Freddy Matungulu, l'administrateur de la Banque africaine de développement, BAD, en RDC. Pendant 3 jours, l'administrateur de la BAD et les autorités congolaises ont passé au peine fin le portefeuille des projets de développement de la RDC qui devrait recevoir l'appui financier et technique de cette banque africaine. D'après Freddy Matungulu, sa structure est en attente d'un document de plan national stratégique de développement pour permettre la réalisation de ses objectifs, dont certains sont en voie d'une mise en œuvre imminente. Les détails avec Jacques-Yves Moulima.
Il s'agit en effet d'un portefeuille de projets de la RDC dont le montant est estimé à près de 1,5 milliard de dollars américains. De ce projet socio-économique dont la BAD est en proie à financer, explique Freddy Matungulu, figure notamment
le projet entrepreneuriat jeune dans l'agriculture qui bénéficie d'un appui financier de 56 millions de dollars américains, un projet prioritaire de sécurité aérienne pour 104 millions de dollars américains, la réhabilitation de la route nationale entre Kinshasa et Kikwit pour 70 millions de dollars américains.
La BAD, renchérit Freddy Matungulu, devrait faire assez, mais elle attend de la RDC des ambitieuses réformes. Lesquelles ?
Des réformes notamment liées à l'environnement des affaires. Des réformes dans le secteur notamment des finances publiques, tout ce qui aidera à renforcer la mobilisation de ressources. Comment est-ce que le système judiciaire peut fonctionner mieux pour qu'il soit un facteur de promotion plutôt que de contrainte?
On entend enfin qu'il existe également des grands projets d'envergure à portée continentale, à savoir Inga 3 et Route Rail Kinshasa-Brazzaville, dont les discussions et les études sont en cours entre les autorités congolaises et les différents partenaires, dont la BAD, pour leur mise en œuvre.
Rendons-nous au Sud Kivu, où la gratuité de l'enseignement de base prônée par le chef de l'État souffre d'application dans certaines écoles, même publiques. Certains chefs d'établissement scolaires exigent aux parents de revenir à la prise en charge des enseignants, dont la plupart sont de nouvelles unités. Le comité des parents des écoles catholiques s'oppose totalement à cette démarche. Les détails avec Alain Kikunda.
Le mouvement des grèves sont devenus intermittents dans les écoles publiques d'Issyd Kivu depuis leur rentrée scolaire. Même certains enseignants qui touchent les salaires de l'État majoré disent se solidariser avec leurs collègues nouvelle unité et ses non payés. Conséquence, difficile de proclamer les résultats de la première période des cours. Ainsi, certains chefs d'établissement tentent de recourir à l'ancien système de la prime pour résoudre les problèmes des enseignants nouvelle unité. Le comité des parents ne veut pas l'entendre de cette oreille. Jean-Paul Moulemaza, président.
Pour ces chefs d'établissement qui essayent d'organiser des assemblées générales pour prendre en charge les enseignants, nous ne soutenons pas ça parce que l'unique employeur de l'enseignant aujourd'hui, c'est l'État congolais.
Pour les directeurs de la province éducationnelle Sud Kivu 1, la situation de certains enseignants a été résolue et les démarches sont en cours pour les restes. Yoï Bokete.
Pour ces petites choses-là que vous venez de constater, à travers quelques écoles, il n'y a pas grand chose parce que les enseignants d'ici de Kivu, ils connaissent leur rôle au niveau des écoles, ils savent qu'ils doivent dispenser les cours.
Bukavu, Alain Kikunda, Radio Okapi.
Direction Nord Kivu, territoire de Beni, plusieurs bastions de rebelles ADF sont passés sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo une semaine après le lancement des offensives. Marc Marofimbo nous en parle.
Depuis le lancement des opérations militaires à la fin du mois dernier, certains bastions et positions avancées des combattants ADF en territoire de Beni sont passés sous contrôle de l'armée après de fortes offensives et pilonnages stratégiques. Il s'agit des positions des ADF dans les périphéries du parc national de Virunga, notamment Kadou, Vemba, Kididiwe, Malolu, des localités situées dans la partie dite « Triangle de la mort ». Depuis le week-end dernier, par exemple, les offensives se poursuivent aux alentours des forêts de Mayangose vers la partie est de la ville de Beni, dont la commune de Rwenzori. Selon les porte-parole des opérations militaires de Sokola 1, il est sitôt de parler d'un bilan des opérations car les offensives se poursuivent. Makazukai précise que l'armée est déterminée à poursuivre ses objectifs jusqu'au bout, mais surtout à accomplir les vœux du chef de l'État qui, lors de son dernier passage à Beni, a lancé le vœu de voir la population de Beni passer les festivités de la fin de l'année dans la paix et la tranquillité. Rappelons que les objectifs assignés par l'armée pour ces offensives sont notamment de restaurer l'autorité de l'État dans cette région qui a subi une série de massacres 5 ans durant. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En Ituri, un mouvement des populations s'observe depuis hier jeudi dans la localité de Luemba, située à 55 km au sud de Mambasa Centre. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le développement des peuples forestiers et CODEPEF, ces familles se dirigent vers Biakato et sa périphérie. Ils craignent l'insécurité dans leur milieu suite aux attaques répétitives des rebelles Mai Mai. Des sources sécuritaires indiquent que des dispositions sont en train d'être prises pour sécuriser la population. Et c'est bien Martial Kizabiamungu.
Des dizaines de familles quittent la localité de Luemba, en chefferie de Babila Babombi, pour se diriger les îles à Biakato, à Lima et les autres vers Tetouri dans la forêt. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, Convention pour le développement des peuples forestiers, CODEPEF, elles sont composées à majorité des femmes et des enfants. Son coordonnateur, Laura Kea, indique que tout est parti du message mercredi des membres du comité local de sécurité de Babila Babombi, demandant à la population d'accepter les retours de humanitaires dont les équipes de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Ce que rejette la population. Cette dernière craint que la présence des humanitaires et les équipes de la riposte dans leur village les expose aux attaques de Mai Mai. D'après toujours la même source, cette situation est à la base du mouvement des populations. Des sources sécuritaires dans la région qui confirment des menaces d'attaques contre la localité de Luemba indiquent que des dispositions sont en train d'être prises pour renforcer l'effectif des forces de l'ordre dans cette entité. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
En justice, la haute cour militaire a requis l'expertise des compagnies cellulaires dans l'affaire de l'auditeur général et partie civile contre le ministre provincial d'Oli Makambo et consorts. Le procès du meurtre de l'administrateur gestionnaire du centre médical Vijana de Lingwala s'est poursuivi devant la même composition de la haute cour militaire ce vendredi à Kinshasa. La cour a entamé l'instruction de la cause dans sa partie d'échange d'appels téléphoniques entre les prévenus. Jeff Ngoy.
L'ombre de l'administrateur gestionnaire du centre Vidjana, Belvis Nkoukou, draine une dizaine de témoins à charge et décharge. Ils comparaissent au titre de renseignants. La cour les confronte aux questions des conseils des partis civils et de la défense. Il s'agit de savoir comment était géré leur emploi du temps ainsi que leur échange téléphonique avec le ministre provincial de Kinshasa, Doli Makambo. À quel moment se sont-ils retrouvés sur le lieu du crime le 30 octobre? Combien de fois fréquentent-ils ce site? Qui a téléphoné à qui et par quel réseau? Aussi, la cour décide, dit-elle, de requérir l'expertise des compagnies cellulaires pour l'éclairer davantage en vérifiant la prise en charge téléphonique dans un temps voisin supposé suspect. Makambo Semei Bakachuraki, Jacques Akilimali, Serge Kamanda et Gaëtan Ekawa sont inculpés d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, d'arrestation arbitraire, torture et meurtre.
En bref, l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami vient de destituer le gouverneur de province par une motion de défiance. Sur 24 participants, 22 ont voté pour et 2 contre. Ce vote est intervenu en l'absence du gouverneur Marcel Lingué. Les initiateurs de la motion lui reprochent la mauvaise gestion de la province et le non-respect de l'Assemblée provinciale. Le gouvernement provincial n'a jamais été investi jusque-là. Au moment du vote, le gouverneur dirigeait le Conseil de sécurité. Les députés qui ont soutenu la motion s'est disant en insécurité après l'incendie de la maison de l'auteur de la motion la nuit dernière. Plusieurs personnes contactées sur place à Kamina affirment que la tension est vive entre ceux qui ont soutenu la motion et les partisans du gouverneur. D'après les députés provinciaux Samuel Yumba, auteur de la motion, le gouverneur déchu a 48 heures pour déposer sa démission auprès du chef de l'État.
Actualité internationale.
Charles Blé Goudé sera bien jugé à Abidjan. L'ancien ministre de la jeunesse de Laurent Gbagbo est toujours en résidence surveillée à La Haye après avoir été acquitté par la CPI en attendant l'examen de l'appel de la procureure. Son dossier ouvert à Abidjan avant son transfèrement à la CPI est toujours ouvert. Mercredi à Abidjan, son collectif d'avocats a claqué la porte d'une audience avec la chambre d'accusation et s'est retiré du dossier pour dénoncer une procédure qu'ils estiment biaisée. Hier jeudi, le procureur général de la cour d'appel d'Abidjan a tenu à répondre point par point.
L'invité.
Notre invité est Kasereka Maïnda, directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma. Il nous parle du tremblement des terres qui a été ressenti le 30 octobre dernier à Bukavu et Goma, ainsi que de l'activité des volcans Nyiragongo et Nyamulagira. Kasereka Maïnda s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Monsieur Kasereka Maïnda, bonjour.
Bonjour.
Les tremblements étaient de quelle magnitude?
Nous avons enregistré d'abord, au niveau de l'observatoire, ce tremblement de terre et nous l'avions rapidement localisé dans la zone de Walungu. Et sa magnitude était de 5,3 sur l'échelle de Richter.
Et c'est très grave?
Oui, c'est très grave. Ça nous appelons des tremblements de terre régional. Quand c'est inférieur à 5, nous parlons des tremblements de terre locaux. Quand c'est régional, c'est-à-dire ça peut être ressenti par presque dans les pays voisins.
Oui, effectivement, les tremblements ont été ressentis à Bukavu, même dans certains quartiers de Goma.
Oui, ça a été ressenti à Goma, vers Katoï. Moi-même, je ne l'ai pas ressenti, mais j'ai été informé par la population, puisqu'on m'a appelé. Mais c'était ressenti aussi au Rwanda et au Burundi.
Et quel risque pour la ville de Goma qui est au pied du volcan?
Écoute, le tremblement de terre, c'est quelque chose qui vient de la profondeur de la terre. Et le volcan aussi vient de la profondeur de la terre. Donc, quand vous bougez à Goma, le volcan aussi bouge. C'est pourquoi, et nous voulons remercier la MONUSCO pour ça, le lendemain directement nous a accordé l'hélicoptère pour qu'on puisse survoler tous les flancs du volcan Nyiragongo et Nyamulagira. On a même atterri au niveau de Nyamulagira et nous avons fait des heures là-bas et notre équipe est montée à pied jusqu'au volcan Nyiragongo pour 3 jours. Les résultats que nous avons, il n'y a pas de risque. Mais le 3 février 2008, quand il y avait un tremblement de terre à Bukavu, ça avait un impact sur les fissures qui logent les flancs du volcan Nyiragongo. Ça cessait de dilater de 2 cm. Et là, ça peut permettre à ce que le magma sorte rapidement de la surface. Alors, pour le moment, nos analyses, les données que nous avons, il n'y a pas d'inquiétude. Même au niveau des températures, puisque si les fissures s'ouvrent, il y a le magma qui monte en surface, et on enregistre une augmentation des températures. Toutes les données n'ont pas montré une anomalie quelconque.
Et quelle est l'activité actuelle au sein du volcan Nyiragongo?
Le Nyiragongo est toujours en activité, il est Nyamulagira, mais l'activité est normale. Nous gardons toujours notre couleur jaune pour dire restons vigilants.
Dans les rapports sur la surveillance du volcan qui date de 1976, on voit qu'il y a eu un tremblement de terre qui avait encore comme épicentre Walungu et le 10 janvier 1977, il y a eu éruption. Aujourd'hui encore, il y a ces grands tremblements de terre à Walungu. Quel message vous pouvez nous donner?
À l'époque, en 1976, le niveau du lac de lave de Nyiragongo était à 200 mètres. Et au-dessus de la fissure principale. Il est vrai qu'à le tremblement de terre a eu lieu, ça a accéléré l'éruption du Nyiragongo. Mais aujourd'hui, le lac de lave est à peu près à 400 mètres du sommet. Et quand le tremblement de terre a eu lieu, il n'a pas eu de changement. Donc, ça n'a pas présenté d'inquiétude comme en 1976. Cette fois-ci, nous avons des observations. À l'époque, en 1976, on était distrait, il n'y avait pas d'appareil pour surveiller. Et mais aujourd'hui, il n'y a pas à s'inquiéter, parce que le 3 février 2008, quand le tremblement de terre a eu lieu à Bukavu, nous sommes montés au volcan le 11, et il y a eu des répliques qui sont arrivées. On a vu comment l'activité variait dans les cratères. Pour le moment, ça n'a pas affecté l'activité du lac de lave.
Donc on peut dire que l'OVG est suffisamment équipé pour surveiller correctement les volcans.
Au point de vue équipement, nous pouvons vous dire vrai. L'OVG, c'est le seul observatoire, le seul centre qui a des données en temps réel. Temps réel, c'est-à-dire toutes les 4 minutes, nous avons les informations sur le volcan. Et on a aussi les informations en direct sur les gaz qui sortent du volcan. La surveillance est bonne, mais aussi il faut accompagner ça par des gestes.
Notamment la prise en charge du personnel.
La prise en charge du personnel, vous l'avez bien dit. Il est difficile de maintenir quelqu'un dont le salaire est dérisoire toute une semaine, parce que le salaire que nous avons, une semaine c'est terminé, d'ailleurs on entre dans la dette, c'est tout un problème. Il y a des gens qui passent la nuit là-bas, hein. Nous avons le tour de rôle de passer la nuit.
Monsieur Kasiaka Mainda, merci.
Merci, Dame Rosalie.
C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.